Voici donc l'accent des autres, comme chaque semaine, c'est avec les médias francophones publics. Bienvenue dans ce rendez-vous que vous fixe la radio-télévision suisse, France Inter, RFI, la RTBF et Radio-Canada. Et on va commencer cette semaine au Canada, précisément à Toronto en particulier, Benoît Audet, parce que le plus grand aéroport du pays fait face à d'importants problèmes de fonctionnement.
Longue file d'attente au comptoir des lignes aériennes, des attentes interminables à la sécurité et aux douanes, c'est le chaos à l'aéroport Pearson de Toronto.
Direction la Suisse, qui devient membre élu du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les années 2023 et 2024, Pierre Anchoffin.
Une participation pleine et entière, compatible avec la neutralité active, suivie depuis une dizaine d'années par le gouvernement, quoi qu'en pensent les conservateurs de l'UDC.
L'inflation, elle touche tout le monde à des degrés divers, mais tout de même, alors en France, Karine Bécard, certains salariés n'hésitent pas à s'adresser directement à leur patron.
Oui, en exigeant 200 euros d'augmentation, c'est ce que réclament les salariés d'un sous-traitant de l'entreprise Sony en Seine-Saint-Denis. Ils sont en grève depuis bientôt deux semaines et vous l'entendrez, ils sont déterminés, donc pas prêts de s'arrêter.
C'est un voyage qui fait beaucoup parler de lui, à la fois en Belgique et au Congo. Il s'agit du déplacement du roi Philippe, le roi de Belgique, en République démocratique du Congo, Fanny Blechner.
Une visite officielle très attendue, de près d'une semaine, chargée en symboles. Le roi Philippe a notamment exprimé ses plus profonds regrets pour les blessures infligées durant la période coloniale.
Enfin, elle a été baptisée la maison de l'horreur. La maison du pédophile belge Marc Dutroux va disparaître. Plusieurs jeunes filles y ont été séquestrées dans une cache aménagée dans les caves. C'était il y a plus de 25 ans, Sophie Brems.
Oui, la démolition de cette maison de Marcinelle à côté de Charleroi a débuté. Elle sera remplacée dans quelques mois par un jardin mémoriel. Mais les caves, elles, seront conservées parce qu'il n'est pas impossible que l'enquête soit un jour relancée.
Voilà donc pour le sommaire de cette fin de semaine. Bienvenue à vous dans l'accent des autres. L'aéroport Pearson de Toronto est aujourd'hui la plaque tournante du trafic aérien au Canada. En 2019, juste avant le début de la pandémie, 50 millions de voyageurs y ont transité. Ce nombre est tombé à 13 millions en 2020, mais depuis quelques mois, avec l'allègement des mesures sanitaires et la reprise des voyages, les autorités de l'aéroport sont littéralement submergées et elles peinent à répondre à la demande. Et manifestement, Benoît, les voyageurs devront prendre leur mal en patience.
Oui, un ancien cadre d'Air Canada estime que les problèmes au comptoir, à la sécurité et aux douanes qui persistent depuis deux mois vont probablement se poursuivre jusqu'en septembre.
Alors, qu'est-ce qui explique un tel chaos?
Il y a tout d'abord les pénuries de personnel. Tous les secteurs de l'économie canadienne sont touchés et l'industrie aérienne n'y échappe pas. Et il y a aussi les contrôles sanitaires encore en vigueur qui ralentissent le passage au point de sécurité. La pénurie touche aussi les compagnies aériennes directement. Air Canada a annoncé qu'elle allait annuler 10 % de ses vols au départ ou à destination de Toronto au cours de la semaine prochaine en raison de la pénurie de personnel.
Et le gouvernement fédéral, de son côté, a promis d'envoyer des renforts.
Oui, Ottawa affirme que l'administration canadienne de la Sûreté du transport aérien a embauché 850 nouveaux agents partout au pays pour tenter de répondre à la demande, mais il ne semble pas y avoir d'effet immédiat. Pendant ce temps, les acteurs de l'industrie touristique canadienne sont inquiets. Ils craignent les effets dévastateurs sur la réputation du Canada comme destination touristique internationale.
Et à propos de trafic aérien, la pénurie de personnel provoque l'annulation de vols en Europe et, Pierre, notamment en Suisse.
Après deux ans de sevrage dû à la pandémie, l'envie de voyager est bien là et les compagnies ne parviennent pas à répondre à la demande. C'est le cas de Swiss qui avait supprimé 1700 emplois durant la crise et qui peine à recruter à nouveau. Résultat, des vols planifiés cet été sont annulés. Cela touche notamment des liaisons Genève-Londres, mais aussi un Zurich-San Francisco par semaine. 30 000 passagers seraient concernés.
Côté belge aussi, Sophie, des vols seront annulés cet été.
Effectivement, la compagnie Brussels Airlines annonce la suppression de 148 vols au départ ou à destination de villes européennes. Il s'agit de réduire la charge de travail sur le personnel, c'est ce qu'affirme la compagnie. Les syndicats estiment pourtant que ce ne sera pas franchement le cas. Supprimer 148 vols, ça représente seulement un peu plus d'1% de l'offre totale.
Retour en Suisse à présent parce que 20 ans après son adhésion à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, la Suisse a été plébiscitée ce jeudi au Conseil de sécurité. Et pour votre pays, Pierre-Hans, c'est une forme d'accomplissement.
Oui, c'est ainsi que le président de la Confédération, présent à New York, a qualifié cette élection pour les deux prochaines années. Ignazio Cassis est mal rappelé. En 2002, c'est le peuple et les cantons suisses qui ont décidé d'entrer à l'ONU, d'appartenir au monde en quelque sorte, ce qui a donné toute légitimité au gouvernement pour se porter candidat au Conseil de sécurité, ce qu'il a fini par faire en 2011 en dépit de l'opposition farouche des défenseurs d'une stricte neutralité. La formalité de l'élection par l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était donc jeudi, 187 voix sur 190.
Voilà, les milieux conservateurs devront donc vivre avec cette exposition plus forte de la Suisse.
C'est ça, d'autant que notre pays présidera à deux reprises l'organe exécutif de l'ONU, vu le tournus mensuel. Fer de lance des sceptiques, l'UDC compte bien harceler le gouvernement et ses diplomates sur leur politique à l'ONU. Le Zurichois Roger Köppel est on ne peut plus clair.
La Suisse ne doit pas s'exposer dans ce monde dangereux. On a beaucoup de guerres maintenant. On ne veut pas les aventures dans la scène internationale. Alors l'UDC doit être un gardien de la sécurité de Suisse. On doit mettre des chaînes au Conseil fédéral de ne pas faire des erreurs sur le niveau du Conseil de sécurité.
À cette vision d'une Suisse qui s'abstiendrait au maximum, le président de la Confédération, Ignazio Cassis, oppose tout ce que cette participation pleine et entière apportera à notre diplomatie.
Réputation, crédibilité et reconnaissance du rôle de la Suisse dans le monde. Vous ne savez pas à quel point ceci génère la confiance vers la Suisse.
Parmi ses priorités, la Suisse veut mettre l'accent sur la promotion de la paix, l'urgence climatique et sa tentative de réduire le poids du droit de veto des 5 membres permanents.
L'accent des autres.
C'est un week-end d'élection en France. Après le scrutin présidentiel, voici le premier tour des législatives ce dimanche. Depuis des semaines, depuis des mois même, la question du pouvoir d'achat est au cœur des débats, au point que certains salariés décident désormais de s'adresser directement à leur direction. C'est le cas à Tremblay, en Seine-Saint-Denis. Des techniciens de chez Adexel, un sous-traitant de l'entreprise Sony, réclament 200 euros d'augmentation. Leur grève dure depuis bientôt 2 semaines et ils n'ont pas l'intention de céder, manifestement, comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Maxime Debs.
Tout ce qui est sous garantie PlayStation Sony arrive ici chez nous, réparé par nos techniciens.
Des techniciens, logisticiens, cadres chez Adexel qui en ont assez pour Youssef Djendar du syndicat Sud. Il demande aujourd'hui, vous l'entendez, 200 euros bruts de plus par mois. On ne leur en propose que la moitié. Bruno de Curnage, délégué CGT.
Il n'y a pas eu d'augmentation depuis des années. Bon, ceci additionné à une inflation galopante va nous conduire aujourd'hui à faire grève. Voilà.
Grève motivée aussi par des patrons qui, au dire des syndicats, ne se privent pas de venir tous les jours dans de grosses voitures.
Mercedes, Corvette, Maserati, on les a vus de nos yeux. Hein. Donc à un moment donné, voilà, oui, ils se sont enrichis. Mais dans quelles conditions se retrouvent aujourd'hui les salariés? On a enlevé les RTT. Il n'y a plus de primes de participation depuis 3 ans. Les primes de Noël, ça fait 3 ans, il n'y en a plus.
Les salariés qui jouent le bras de fer. Sony s'engage sur un retour des consoles en panne sous 10 jours. L'effet de la grève devrait donc commencer à se faire sentir.
Là, demain, on va rentrer dans les 10 jours. Donc demain, il y aura des gens qui vont commencer à appeler le call center pour dire où est ma console. Et ça va, bah, vous savez, un gamer qui a pas sa console, voilà, qui a payé 500 euros une console, qui a acheté 80 euros un jeu, c'est sûr que ça va faire du bruit.
Du bruit auquel la direction est restée hier insensible. L'un des patrons contactés nous a promis que la DRH allait nous rappeler, mais sans succès.
Reportage de Maxime Debs pour France Inter. C'est une visite qui était particulièrement attendue de part et d'autre. Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique sont en République démocratique du Congo depuis mardi dernier, Fanny.
Et cette visite, c'est la première depuis le début du règne du roi Philippe en 2013 et la première d'un souverain belge depuis 12 ans. Elle était initialement prévue pour le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, mais elle a été reportée à cause du Covid d'abord, puis du déclenchement de la guerre en Ukraine. Cette fois-ci, le voyage n'aurait pas pu être davantage repoussé et pour cause, l'élection présidentielle en RDC aura lieu en 2023 et la Belgique ne veut surtout pas paraître s'ingérer dans la politique congolaise.
Oui, il faut dire que les relations ne sont pas forcément toujours simples entre les deux pays en raison du passé colonial de la Belgique.
Oui, après la restitution d'un masque exceptionnel au musée national congolais, le souverain belge a exprimé en public ses profonds regrets pour les blessures infligées durant la période coloniale. Dans ce double discours du roi et du président Félix Tshisekedi, il a également été question d'économie. Le roi Philippe a salué l'immense potentiel de la RDC. De son côté, le chef de l'État congolais, lui, s'est félicité de la reprise des échanges et de la coopération dans le secteur du diamant, de l'énergie ou le domaine portuaire. Mais il a appelé les investisseurs belges à accélérer le pas. Après Kinshasa et Lubumbashi, la délégation présidentielle se rend ce dimanche à Bukavu.
Voilà, Bukavu dans l'est du Congo, où le couple royal doit rencontrer le gynécologue Denis Mukwege, co-lauréat du prix Nobel de la paix 2018 pour son action en faveur des femmes victimes de viol. On termine en Belgique avec vous, Sophie, avec les travaux de démolition de la maison de Marc Dutroux. Ils ont débuté cette semaine. C'est la maison où le pédophile belge condamné à la perpétuité avait séquestré plusieurs jeunes filles.
Cette maison située à côté de Charleroi avait été baptisée la maison de l'horreur. C'est là que les jeunes Sabine et Laetitia sont délivrées en 1996. C'est là aussi que Julie et Mélissa sont décédées un peu plus tôt dans la cave, dans une cache aménagée par le pédophile. Depuis plus de 25 ans, cet endroit c'était comme une cicatrice insupportable pour les riverains.
À chaque fois que je passais, ça me donnait des cauchemars. C'est horrible ce qui est arrivé. Et il y a des années de ça, et j'y pense encore.
La décision de démolir cette maison a été donc prise en concertation avec les parents des victimes de Marc Dutroux, Gino Rousseau, notamment le père de Mélissa. Au départ, pourtant, il ne voulait pas qu'elle disparaisse.
C'était un peu comme la maison d'Anne Frog. Je ne voulais pas qu'on la détruise. Et puis, voilà, ça a fait son chemin. Et nous avons demandé à ce qu'on préserve les sous-sols parce que c'est un point central de dossier judiciaire.
Les caves seront donc conservées pour maintenir les traces ADN et relancer l'enquête, éventuellement. Cette maison en surface sera remplacée par un jardin mémoriel et les travaux devraient durer un peu plus d'un an.
Sophie Brems pour la RTBF, merci à vous et merci aux auditeurs des médias francophones publics d'avoir une nouvelle fois été au rendez-vous de l'Accent des Autres, l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics. Excellente fin de semaine à vous tous, on se retrouve bien sûr si vous le souhaitez la semaine prochaine à la même heure.